parole. On s'en va dans Job au chapitre 30, s'il vous plaît. Le thème du mois, c'est la sainteté de Dieu. Le thème de l'année, c'est « Voici ton Dieu ». On découvre les merveilles de notre Dieu. Il y a Dieu qui est si grand. Vous savez que l'éternité, ça sera passé pour épuiser tout ce qu'on peut découvrir de notre Dieu. Il est tellement grand, infini. Mais ici sur Terre, Dieu nous a donné l'occasion de le découvrir jour après jour à travers ce qu'il nous envoie. Le problème des fois, par contre, c'est qu'on n'aime pas ce qu'il nous envoie. Mais le but reste le même. Dieu veut qu'on le découvre. Dieu veut qu'on l'apprécie. Dieu veut qu'on ait une nouvelle communion rafraîchie, puissante, délivrante à travers ce qu'il nous envoie. Qu'on soit enchanté par ça ou moins enchanté, disons. Et vous savez que le livre de Job nous raconte l'histoire de quelqu'un qui n'était pas si enchanté, et je ne pense pas de l'arrêter non plus, parce que Dieu avait décidé d'y envoyer. Et on va lire juste un verset pour s'introduire, puis ça communique bien ce que notre cher Job ressentait dans son cœur par rapport à ce qu'il vivait. Regardez dans chapitre 30 et le verset 26. « J'attendais le bonheur, et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière. » Et les ténèbres sont venues. On va prier. Seigneur, on s'apprête à considérer des choses profondes, puissantes et libératrices de ta parole. Seigneur, merci que tu t'es révélé à ton serviteur Job du sein de la souffrance. Tu as montré ta grandeur, ta sainteté, face au mal et à la souffrance qui font partie de ce monde déchu. Merci que tu as donné à Job une plus grande révélation de toi-même, parce que c'est ce dont il avait besoin et nous avons exactement le même besoin ce matin. Une plus grande appréciation de qui tu es, de ta grandeur, de ta suffisance, de ta bonté. Alors Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Merci, Saint-Esprit, que c'est toi qui enseignes chacun de tes enfants. Et que c'est toi ici que s'il y en a qui ne te connaissent pas, tu les connais. Et tu sais comment les atteindre. On te prie que s'il y en a qui ne sont pas encore en Jésus-Christ ce matin, sauvés par son sang, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, qu'aujourd'hui, on ait la joie de voir la nouvelle naissance de ces personnes-là. On s'attend à toi, Seigneur. Merci que tu es là, au milieu de nous. Tu es la personne la plus importante de cette réunion. On veut fixer les yeux sur toi. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez, ici, Job exprime, dans le fond, de façon bien claire et limpide, ici, c'est très honnête, hein? Il dit, je suis déçu. Hein? C'est, on pourrait dire, les attentes différées. Il s'attendait à quelque chose, puis il n'a pas eu pantoute ce qu'il y a eu. Il attendait le bonheur, le malheur est arrivé, il attendait la lumière. Et les ténèbres sont venues. Et un petit moment d'honnêteté ce matin, mais enfin, on devrait toujours en avoir, là, OK? Mais n'est-ce pas ce que nous avons vécu à plusieurs niveaux, de plusieurs façons, à plusieurs reprises depuis 9 mois? Des attentes différées, des déceptions, nous qui s'attendaient à quelque chose, puis on a eu autre chose, on t'attend au bonheur, le malheur est arrivé, la lumière, les ténèbres. Et donc, le message de ce matin touche un point tellement important. La sainteté de Dieu face au mal et à la souffrance va toucher à cette grande question existentielle. Le mal et la souffrance, pourquoi? Pourquoi il y a ce mal et cette souffrance? Mais je veux qu'on prenne notre temps. On va faire les deux, donc le message de ce matin et celui de la semaine prochaine sur ce thème de la sainteté de Dieu face au mal et à la souffrance. Et je pense que c'est extrêmement important dans les moments que nous traversons en ce moment. Ça, c'est toujours vrai, je veux dire, comprendre la sainteté de Dieu face au mal et la souffrance, c'est toujours important, mais spécialement en ce moment. Pourquoi? Parce que on a besoin de savoir c'est quoi le sens de ce qui nous arrive. Ou pour le dire autrement, pourquoi ces choses arrivent? C'est quoi le pourquoi des choses en ce moment? Vous êtes-vous arrêté là-dessus? Pourquoi? C'est parce qu'on peut juste, oh, moi je ne me pose pas de questions. Puis, mais si on se pose des questions, puis, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Vous savez que c'est une grande question qui résonnait dans le cœur de Job? En fait, c'est probablement la question qui hantait son cœur. Seigneur, pourquoi? On va voir même plus précisément quelles questions qu'il peut avoir dans son cœur avec ça, dans nos messages, mais en résumé, la réponse chrétienne à pourquoi, c'est la réponse à ce que Dieu donne à toutes les questions, Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la réponse. Pourquoi? Tout tourne autour de l'œuvre et de la personne de Christ parce que tout est révélé pleinement en Jésus-Christ. Puis, je veux qu'on réfléchisse un peu là-dessus ce matin. Vous savez que si il n'y avait pas la croix, s'il n'y avait pas la résurrection, donc la victoire sur la mort, puis Dieu qui donne la vie, notre existence n'aurait aucun sens. Il n'y aurait pas de pourquoi. Je veux qu'on s'arrête là-dessus ce matin et dans le prochain message. Vous savez, si on se pose, pourquoi il y a ce mal et cette souffrance dans le monde? Okay? Si on veut répondre, il faut obligatoirement comprendre les choses à la lumière de la croix d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a pris ce mal. Dieu lui-même a subi toutes les conséquences de ce mal sur lui-même, sur la souffrance, afin de nous donner le bien. Parlez-moi du sens de ce qui arrive là. C'est unique. On parle de sainteté. Il n'y a rien, il n'y a pas une religion, il n'y a pas une philosophie qui va à côté ça. Dieu qui prend lui-même tout ce mal et cette souffrance afin de nous donner le bien. Comme ils disent en anglais, « Let that sink in ». Laissez ça rentrer dans votre cœur ce matin. Juste ça, ça donne un sens à tout ce qu'on... Pour l'amener autrement, on pourrait méditer sur Ésaïe 53. Ou, pour être plus précis encore, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Puis c'est quoi qui est arrivé avec l'iniquité de nous tous? Est tombée sur lui. Ça, ça donne un sens à la souffrance puis au mal dans le monde. Puis dans nos vies. Parce que Dieu poursuit un but. Dieu n'est pas un Dieu qui est au hasard, qui subit les choses, qui ne sait pas trop ce qui arrive. Dieu est au contrôle et Dieu s'occupe du mal et de la souffrance. Donc, on n'est pas laissé de même comme dans les ténèbres, à tâtons, pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va. On peut avoir un pourquoi qui est solide puis auquel surtout s'accrocher. Par la foi, quand on vit des choses comme on vit en ce moment et qu'on se pose la question, pourquoi tout ce mal? Je vous le dis dans une phrase, puis on va le développer dans ce message, puis aussi dans le prochain. Pourquoi tout ce mal, cette souffrance? Parce que Dieu veut se glorifier et être manifesté comme le Dieu saint au milieu de la souffrance. Comme étant le Dieu qui est capable de transformer le mal en bien. Comme étant ce Dieu qui prend le mal et qui fait ressortir le bien. Prend le mal sur lui et fait ressurgir la vie, la bonté, toutes les choses qui sont... C'est ça le sens de ce qui arrive, ce qui est mal, parce que Dieu est au contrôle et Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais il est tellement grand qu'il peut le changer en bien. Êtes-vous encore avec moi ce matin? OK, go, bon, on continue. Je pense que quand on a la réponse solide à la réponse du mal, puis la croix, la résurrection, c'est la pierre angulaire dans nos vies. La pierre qui est la plus importante pour bâtir tout le reste. La pierre qui est, s'il n'est pas là, tout le reste s'écroule. C'est de comprendre, puis c'est ce qui va bâtir notre adoration, notre exaltation du Seigneur, nos actions de grâce, nos louanges. C'est quand on voit toutes ces choses à la lumière de la croix et de la résurrection. Dieu qui a pris le mal sur lui pour nous donner le bien. La résurrection, c'est Dieu qui donne la vie, la victoire. Okay? Ça, ça donne un sens à tout ce qu'on vit. C'est pour ça que je vous dis que tout se résume dans l'œuvre et la personne de Christ, l'œuvre de la croix, la résurrection, sa personne, son amour infini qui est manifesté de cette manière. Donc, dans ce sens-là, on parle de sainteté de Dieu. La croix, c'est l'ultime démonstration de la sainteté de Dieu. Vous voulez parler de la sainteté de Dieu? Elle est manifestée à son apogée, au plus puissant, à la croix du calvaire et par la résurrection d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pareil dans le monde. Sainteté, vous vous rappelez, ça veut dire quoi? C'est être différent, à part, incomparable, ok? Saint, c'est mis à part. Il n'y a rien, je veux dire, il y a juste une croix. Il y a juste un tombeau vide. Il y a bien des religions, il y a des prophètes, il y a des philosophies, mais il y a juste une croix, puis il y a juste une résurrection. C'est ça, la puissance de la croix qui donne le sens à la souffrance et au mal. Je vous donne un exemple bien concret. Vous savez, il y a eu des grandes atrocités dans le monde. Une que nous, on parle plus, mais c'est pas la seule. On parle pas beaucoup tant que ça qui s'y parle en Russie, peut-être encore moins ce qui est arrivé en Chine dans le temps de la guerre. C'est pas très beau. On parle pas de l'Asie beaucoup, mais en Asie, on parle de millions de morts, là, de 20 millions dans la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous saviez, là, 20 millions en Russie. Bon, on parle beaucoup d'Auschwitz, OK? C'est horrible, 6 millions de morts de juste les Juifs. On sait qu'il y en a d'autres aussi qui sont morts. Saviez-vous, bon, si on parle d'Auschwitz, ce camp de concentration, savez-vous que beaucoup y sont entrés comme étant athées? Croyaient pas en Dieu, reniaient Dieu. Il y a quelque chose d'unique qui s'est révélé avec ces personnes. Soit qu'ils ressortaient les pieds devant en s'étant enlevés eux-mêmes la vie. Parce que quand on souffre tant, puis s'il n'y a pas de sens, on est un athée, s'il n'y a pas de pourquoi, s'il n'y a pas une raison au-delà, à quoi ça sert de vivre? Mais heureusement, il y a beaucoup de ces athées qui ont trouvé Dieu, qui ont trouvé l'Évangile. C'est qui, hein, qui nous partageait que même Dieu a permis, ceux que, ah, c'est toi qui partageais l'histoire de Pauline Tadeau, sa sœur qui était malade, ça, Dieu a permis qu'elle soit malade, mais savez-vous quoi? Pendant tout le temps qu'elle était là, qu'elle était limitée dans ses capacités, elle pouvait parler du Seigneur toute la journée. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé Dieu parce que Dieu était là au milieu de la souffrance. Et c'est cette sœur de Corrie ten Boom qui a dit, il n'y a pas de trou assez profond où est-ce que Dieu ne peut pas aller rejoindre exactement là. Dieu est là au cœur même de la souffrance. Dieu est à Auschwitz. Puis il a rencontré, du moins, il a transformé des vies. Puis ceux qui ne l'ont pas rencontré, c'est eux qui étaient dans la misère, ça n'allait pas bien. Dieu donne un sens à la souffrance. Puis si on ne l'a pas, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'espérance. C'est puissant ce dont on parle aujourd'hui. C'est pour ça que pour nous, comme chrétiens, si vous êtes ici et vous connaissez le Seigneur Jésus, c'est tout à fait erroné, comme on dit en bon québécois, c'est être dans le champ, d'essayer de trouver un sens à ce qui nous arrive en ce moment, en dehors de l'œuvre parfaite de Christ. Je veux dire, dans le monde, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. À tout ce mal qui arrive dans le monde, la réponse est dans le fait que Dieu a tout fait, il est capable de transformer le mal en bien. Ça donne un sens à tout ce qu'on vit. Il y a un grand piège dans lequel, je ne sais pas si vous êtes tombé dedans, mais beaucoup tombent en ce moment. C'est d'essayer de trouver le sens, le pourquoi de ce qui nous arrive en ce moment en se concentrant sur les choses qu'on voit, les choses qui arrivent autour de nous autres, ou se concentrer sur celui qui les permet, sur celui qui peut faire la différence dans ces choses. Tout est une question de concentration. Où je regarde? Parce que Dieu n'est pas indifférent à ces choses, et Dieu, c'est... Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. Quand il a entendu le peuple qui criait en Égypte parce qu'il souffrait, Dieu l'a entendu, puis il est descendu, s'en occupé, il a délivré. Dieu, c'est pas qu'il est indifférent. Mais Dieu, c'est à lui qu'il faut regarder. Puis d'ailleurs, les Israélites, ils ont bien fait, ils ont fait de la bonne affaire en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel. Ça faisait partie du plan. C'est une belle histoire de la rédemption. C'est une image de la délivrance de Dieu. Donc aujourd'hui, on va se poser une première question, deux autres dans le prochain, trois questions au total, qui sont des questions qui touchent au tu sais, dans notre nature humaine, là, quand arrive de la souffrance, là, boum, il ressort ces trois questions-là, OK? Sont pas originales avec ce que moi, j'ai écouté quelque chose que j'ai trouvé vraiment inspirant, puis le gars posait les trois questions. Je vous amène pas ce que j'ai entendu, mais les trois questions ont servi de point de départ, parce que ça m'a fait vraiment réfléchir. Le gars, il dit, puis je vais vous en parler dans quelques instants, mais il dit, quand il arrive la souffrance, là, humainement, là, les trois questions qui ressortent, c'est ces trois-là. OK? Avant de vous les dire, là, je vous tiens un peu en haleine, parce que là, tout le monde s'est dit, c'est quoi les questions? Il les a-tu dit? Non, je les ai pas encore dit. Je fais exprès. Hein, faut que je garde réveillé un peu, là. Mais l'idée, là, c'est que la réponse à ces questions, c'est en gardant Dieu, le Dieu de la Bible, au centre de ces questions. Tout le monde se pose des questions, mais pas tout le monde donne les bonnes réponses. Et j'aimerais qu'on soit honnête devant Dieu aujourd'hui, dire comme avec David dans le psaume 139, « Dieu, sonde-moi. Sonde-moi, Dieu, connais tous mes voies, puis montre-moi, est-ce que je suis en train de m'égarer avec ce qui arrive ou je suis en train de m'approcher de toi? Est-ce que les choses qui arrivent m'amènent à me poser des questions qui m'approchent de toi ou qui m'éloignent de toi? » Est-ce qu'on s'entend que c'est important de ce dont on parle ce matin? Donc, les voici les questions, puis on va considérer la première, qui est trois questions fondamentales à trouver pour trouver un sens à ce qui nous arrive. La première, c'est « Pourquoi moi? » La deuxième, c'est « Où est Dieu? » La troisième, c'est « Est-ce que je suis capable de supporter ça? » Pensez-y, là. Puis ça résume pas mal. Quand on souffre, on se pose « Pourquoi moi? » Où est Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Puis, je suis capable de passer au travers, je suis capable de supporter ça. La première, c'est avec ça qu'on va passer le reste du message aujourd'hui. Pourquoi moi? Et on s'en va dans Job 39. On est déjà dans Job, mais on va au chapitre 39. Où est-ce qu'on peut lire? On va commencer au verset 34, c'est l'Éternel qui parle, mais je veux surtout qu'on s'arrête sur la réponse de Job. Verset 34. 39-34, l'Éternel, s'adressant à Job, dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Je vous l'ai dit que Job, la question qu'il y a dans son cœur, pourquoi moi? Puis il l'a pas eu facile, Job. Il a tout perdu, là. Il restait juste sa vie. Ben, on s'entend-tu que la question était légitime? Mais qu'est-ce que j'ai fait, là? Pourquoi moi? Mais ici, on est au milieu du temps où est-ce que Dieu se révèle dans la tempête, puis là, il parle, puis Dieu, dans le fond, il donne pas toutes les réponses à Job. Qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à Job. Il dit, « Je suis Dieu. Je peux faire ce que je veux. Je permets la souffrance. » OK, puis ici, il pose la... Dieu parle et dit, « C'est qui dispute contre le Tout-Puissant? Est-ce qu'il est convaincu? Est-ce qu'il y a une réplique à faire? » Puis on voit la réponse. Je mets la main, j'ai rien à dire. Donc, la question « Pourquoi moi? » On peut dire qu'elle a une légitimité. Et ça ressort à travers tout le livre, mais dans le fond, Dieu, ce qu'il dit, il dit « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi, Job? J'ai le droit de faire ce que je veux. » Quand on dit « Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? » Ou pour le dire autrement, « Qui suis-je pour m'opposer au plan souverain, sage, salutaire et oui, parfait de Dieu? » Savez-vous que Job était dans la volonté parfaite de Dieu? C'est la volonté de Dieu que Job souffre comme ça. N'est-ce pas Dieu qui a dit « OK, fais ça, OK, fais ça. » Dieu, c'est parce qu'il y avait bien plus gros que juste le bout que nous, on se concentre dessus, puis toute la discussion, puis la souffrance, tout ce qu'il a perdu. Voyez-vous comment Dieu a transformé le mal en bien? N'est-ce pas une démonstration, le livre de Job, de comment Dieu change le mal en bien, en mieux? Pas juste en bien, en mieux. Parce que Job... On voit Dieu a tout restauré sa situation. Mais après ça, Job avait une nouvelle appréciation de son Dieu. Donc, tout était mieux pour Job après ça. Parce qu'il a rencontré Dieu dans la souffrance. Il a rencontré le Dieu incomparable, le Dieu unique, le Dieu tout-puissant au milieu de la souffrance. Et c'est le plus grand bien qui pouvait arriver à Job. Quand vous dites, pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu voulait faire. Dieu voulait faire du bien à son enfant. Ça a passé par le mal, ça a passé par la souffrance. Mais Dieu a été bon là-dedans tout le temps. En passant, dans Daniel chapitre 4, verset 35, c'est un verset, c'est drôle, c'est dans la bouche du roi Nebuchadnezzar qui était si orgueilleux, ça, Dieu l'a humilié, puis lui aussi a eu son bout difficile. Puis c'est quoi que ça dit? Qui dit à Dieu, que fais-tu? Personne ne peut dire à Dieu, que fais-tu? En fait, on le dit souvent. Parce que quand on dit pourquoi moi, on dit à Dieu, qu'est-ce que tu fais, Dieu? Mais le point de Job, le point aussi dans Daniel, c'est que, OK, on peut bien le dire, mais au bout du compte, humblement, faut reconnaître, on ne peut pas dire à un être infini, bon, qui connaît tout, que fais-tu? Parce qu'on ne connaît rien. Puis s'il fait, c'est parce que c'est ça qu'il faut qu'il soit fait. Est-ce que c'est dans notre nature humaine de penser même? Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que je veux qu'on s'arrête là-dessus, qu'on prenne le temps de penser à ça. Parce que c'est bien beau de dire ça ce matin. C'est facile, on est à l'église. Mais c'est quoi? La question pourquoi moi peut nous torturer, peut nous lacérer. Ça peut être vraiment dur lorsqu'on subit la souffrance. L'homme dont je parlais s'appelle Oz Guinness. Il a écrit un livre, il y a un petit documentaire qui a été fait, que c'est lui qui anime. Ça a été fait en 2011, mais c'est brûlant d'actualité. Et son livre, ça s'intitule, puis le documentaire aussi, « Si Dieu est Dieu, alors pourquoi tout ce mal arrive-t-il? » Pourquoi? Et cet homme, ce que j'aime du documentaire, c'est que ça l'exalte, la croix de Christ, la résurrection, la vie de Christ comme solution à tout ça. La réponse, c'est Christ. Et ce monsieur, Oz Guinness, Oswald, mais j'imagine c'est ça, pour le plus court, il dit Oz. Il a survécu au carnage. On parlait de l'Asie durant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous savez, moi je ne le savais pas. Mais il y a eu 20 millions de morts en Chine. Parce que les Japonais, là, c'était un régime très, très dur. Donc, ethnic cleansing, des génocides, mais aussi famine, des conditions extrêmement difficiles. Et lui était là, M. Guinness, avec ses parents et ses deux frères. Okay? Ses parents étaient missionnaires en Chine. Et donc, ils ont vécu toutes ces choses-là. Ses deux frères sont morts, mais pas lui. Ah oui, mais pensez-vous qu'il ne se demandait pas la question? Pourquoi moi ou pourquoi pas moi? Comment ça que mes deux frères... Donc, c'est normal, n'est-ce pas normal de se poser ces questions-là? Pourquoi moi je suis resté et mes frères, eux autres, sont morts? Je veux dire, c'est pour ça que je vous dis, ça surgit dans nos cœurs, ces questions-là. C'est inévitable. C'est ce qui va sortir. Et ce que je veux faire ce matin, puis aussi dans le prochain message, là, je vais vous sortir un gros mot, mais je vais vous l'expliquer. En fait, c'est pas si... C'est juste peut-être que vous ne le connaissez pas. Je veux faire une théodicée. Théodicée, là, c'est la justification de la bonté de Dieu. C'est défendre la bonté de Dieu face aux arguments sur l'existence du mal. Je veux défendre le Seigneur, puis il se défend lui-même, et je veux, avec la parole, montrer comment Dieu est toujours bon. Le mal n'enlève en rien le fait que Dieu est bon. C'est ça que je veux faire. Savez-vous ça qu'avant, tu sais, la philosophie, non, ça sert à rien la philosophie. Savez-vous qu'avant, c'était enseigné en philosophie, la théodicée faisait partie des quatre disciplines, les trois autres étaient la psychologie, la morale et la logique. Je pense que ce serait bon qu'on apprenne ça dans nos écoles, au lieu d'apprendre l'éthique et culture religieuse, puis se faire... Les gens apprenaient à penser, puis avoir une pensée critique dans le sens de savoir penser sur les choses. On n'est pas plus intelligent qu'avant, on est juste plus... lessivé. Tide, lave plus à l'eau froide. Mais maintenant, si on vient à nos moutons, la question principale pour nous ici qui sommes chrétiens, par rapport, OK, il est où ce Dieu saint, ce Dieu incomparable, il est où dans la souffrance? Dans le mal. En passant, il y a une différence. Le mal, c'est actif. Le mal fait du mal. La souffrance, c'est subir le mal, c'est passif. Il y a des gens qui font du mal, puis ça fait souffrir ceux qui reçoivent le mal. Il y a une distinction entre les deux. C'est une question qui est tellement... Il est où ce Dieu saint dans la souffrance? C'est tellement pourquoi? Parce qu'on parle du caractère de Dieu. Je veux dire, si Dieu n'est pas bon, là, on a tout faux, là, on se met à retourner chez nous, puis ça ne sert à rien de venir à l'église, là. C'est une question, comme on dit, existentielle. Si Dieu, à cause du mal, ça prouve qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas tout-puissant, on n'a plus le Dieu de la Bible, puis ça vaut pas la peine de vivre pour lui puis de mourir pour lui. On regarde, on a-tu une raison pour vivre? Puis même aller jusqu'à mourir? Donc, c'est vraiment important ce qu'on regarde ce matin. Puis comme j'ai dit, là, on commence avec la question « Pourquoi moi? » La semaine prochaine, il est où Dieu dans tout ça? Il se demandait ça, n'est-ce pas, Job? T'es où Dieu? Puis Job soupirait après un intermédiaire, soupirait après Jésus-Christ, soupirait après l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Puis aussi, évidemment, il se demandait comment je vais me faire pour en sortir de cette affaire-là, puis de mes amis qui sont là. Puis on les voit, ces questions-là, dans le livre de Job. Ce que je veux dire ce matin, c'est que savez-vous quoi? On n'a aucun espoir face au mal et à la souffrance. On ne peut pas s'accrocher à la bonté de Dieu. Je répète, on n'a aucun espoir dans la souffrance et le mal. Si on ne peut pas s'accrocher au fait que Dieu est bon, puis reste bon, puis il n'a jamais arrêté d'être bon. C'est ça notre espérance. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on réponde clairement à la lumière de la parole dirigée par le Saint-Esprit. Parce que sinon, on n'est pas mieux que quelqu'un qui est perdu, qui est athée, qui est païen, qui a une religion vide. C'est la sainteté même de Dieu qui est remise en question. Dieu n'est pas comme les dieux païens, les dieux qui ont des narines mais dans lesquelles il n'y a aucun souffle. Dieu est le Dieu vivant. Et donc, si Dieu est Dieu, il est capable de faire la différence. Il a la réponse à ces questions difficiles. En fait, il est la réponse à ces questions difficiles. Parce que non seulement Dieu a la réponse, mais il peut la résoudre. Il donne une illustration de la vie d'Ézéchias. Vous connaissez le roi Ézéchias, un bon roi d'Israël. Malheureusement, sa fin est un petit peu... Et moi, c'est celui-là que quand il est devenu malade, il demandait d'être prolongé de la vie. Le prophète Ésaïe est allé... Puis, il était guéri pendant 15 ans, mais pendant les 15 ans, c'était pas mieux. Il s'est pas amélioré. En fait, il a abandonné l'Éternel. Mais le roi Ézéchias, du temps que ça allait bien, a été comme ça envahi, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, par un roi étranger, Sanchérib, le roi d'Assyrie. Et voici que ce que je veux qu'on remarque avec ce que cet homme, le roi Sanchérib, a fait. Il a écrit une lettre insultante. Puis, il voulait semer l'effroi parmi le peuple. La scène, là, c'est que là, il y a le siège, puis là, il envoie cette lettre. Puis là, les gens lisaient ça à haute voix. Puis c'est qui le Dieu, l'Éternel, pour délivrer de ma main? Les dieux des nations n'ont pas pu me délivrer de ma main. Qui est l'Éternel? Ça, c'était l'insulte. Puis voici, il leur fait peur en disant, je vais venir, je vais vous envahir comme les autres nations. Savez-vous qu'est-ce qu'on apprend de ça? Satan s'attaque à Dieu, puis en passant, Satan travaille à travers différents canaux. Regardez dans le monde en ce moment, là, des voix comme ça là, qui veulent insulter Dieu, puis nous faire peur, ça pullule. Là. Et Satan, c'est sa tactique, pourquoi? Parce qu'il veut nous empêcher de faire ce que Ézéchiel et eux autres ont fait à trois reprises dans le passage que je suis en train de vous citer. Ça dit qu'ils se sont confiés en l'Éternel.
Amen.
Puis vous savez, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a délivré. Dieu s'est occupé. Mais je veux juste amener ce point-là ce matin. Pourquoi moi? Pourquoi je vis ces choses-là? Ça me fait peur. Puis... c'est insultant. T'sais, remarquez comment le monde s'attaque non seulement à la foi chrétienne, mais spécialement à Jésus-Christ. Oh, c'est un prophète, c'est un bon gars. Puis le mettre sur pied d'égalité avec d'autres dieux ou d'autres qui se disent de Dieu. Mais non, Jésus est incomparable. Là. Jésus, c'est Dieu fait homme. Il n'y a rien de ça dans l'histoire de l'humanité. Là. Savez-vous que si on regarde là, l'œuvre de Christ et tout ça, C'est la réponse. Il n'y a même pas rien qui commence à s'approcher, à compétitionner avec le fait que Dieu s'est occupé du problème du mal en Jésus-Christ par la croix. Comme je le disais tantôt, il l'a pris sur lui-même. Il a pris toute la malédiction afin de nous donner toute la bénédiction. Il n'y a rien de même. C'est ça la sainteté de Dieu face au mal et à la souffrance. C'est ça notre sécurité. C'est ça qui nous rappelle que Dieu est bon. Il subit pas les choses. Il contrecarre. Peut-être pas le bon mot, ça fait un peu, en tout cas. Il surmonte le mal. Notre part, c'est de se confier en l'Éternel. Lorsque ça arrive, quand on dit « Pourquoi moi? » de se rappeler « Parce que Dieu m'aime, parce qu'il est bon, parce qu'il désire me donner la liberté qui vient par la crainte de son nom. C'est pour ça qu'il y a du mal, parce que Dieu me donne un rendez-vous avec lui. Mm-hmm. » Savez-vous que si vous êtes ici puis vous n'êtes pas sauvé, puis vous vivez de la misère, puis vous êtes tout confus, puis vous ne savez plus où vous tournez, c'est Dieu dans sa bonté qui vous appelle à lui. On a ça dans Job 36:15. Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. La souffrance et le mal que Dieu permet dans nos vies, c'est ses bras tendus en disant « Hey, il y a plus. Il y a quelqu'un qui est au-delà de la souffrance. C'est moi. Je suis la réponse lorsque tu souffres. Je veux que tu me tournes vers, que tu tournes vers moi et je peux changer le mal en bien. » Là, je ne parle pas ici d'évangile de la prospérité. Si vous croyez en Dieu, vous allez devenir millionnaire et tout va bien aller. Mais avoir la paix, même dans les pires des circonstances, une joie qui surpasse ce qu'on peut comprendre. Je veux dire, c'est ça que Dieu fait pour ceux qui se confient en lui au milieu de la souffrance. Pourquoi? Parce que quand on rencontre Dieu, on rencontre quelque chose qu'on peut rencontrer nulle part d'autre dans le monde. C'est ça la question à pourquoi moi? Parce que Dieu court après toi. Dieu veut faire de quoi? Comme il l'a fait dans la vie de Job. J'aime ce verset dans Sophonie. Alors, on est ici, on n'est pas grand monde, puis on peut dire, bah, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Puis ah, le monde dit qu'on n'est pas essentiel. Mais qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Il dit, je garderai au milieu de toi, puis on pourrait dire, ça parle de Jérusalem, mais je garderai au milieu de toi, ville de Québec, un peuple humble et petit. Ça ressemble à nous autres, ça, n'est-ce pas? Qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. Amen. Dieu valorise ça. Dieu dit ça, c'est précieux. Dieu, il dit que ça, c'est quelque chose de beau à ses yeux. On est précieux aux yeux. On a un sens. On se rend compte ici parce que Dieu est avec nous. Puis Dieu est notre Dieu. C'est pas pour rien, là. C'est pas parce qu'il faut qu'on vienne, parce que c'est le dimanche matin, puis c'est notre religion. Non, c'est parce que Dieu est au milieu de nous. Puis si on continue à lire, vous connaissez probablement le verset 19 de ce même chapitre de Sophonie. « L'Éternel est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des chants d'allégresse, des transports d'allégresse. » J'aime mieux chant parce que transport... Je pense à quelqu'un qui chante dans son auto, là, ou quelque chose de même, là, ou qui est content dans son auto, là. C'est le verset des troqueurs, j'imagine. Faudrait que je le... Faudrait que je le partage avec frère Dominique. J'ai un verset de troqueur pour toi. Ah oui? Ah oui, il y a des... L'Éternel a des transports d'allégresse. Je veux juste amener... OK, ce qu'on regarde, là... Notre première question, pourquoi moi? C'est important de bien poser les assises, c'est le bon point de départ. Si on se dit pourquoi moi, puis qu'on se met à s'apitoyer, qu'on se met à voir toutes les raisons pour lesquelles on devrait être amer, puis pas content, puis tout ça, tout le reste va pas marcher, puis on va se demander où est Dieu? Ben là, Dieu, il est pas là, puis il s'occupe pas de moi, puis je peux-tu supporter ça? Non, on va être écrasé! Fait que quand on se pose la question pourquoi moi, puis c'est inévitable de s'apposer, faut pas se replier sur nous-mêmes, faut lever les yeux. Pourquoi moi? Parce que j'ai un Dieu qui est là, puis qui est au contrôle, puis qui veut mon attention. C'est pour ça pourquoi moi? Parce que Dieu est bon. Laissez pas votre cœur, le monde, les mensonges de Satan vous faire croire une fraction de seconde que le mal qui arrive et la souffrance, c'est parce que Dieu n'est pas bon. Satan est un expert à faire ça. C'est ce qu'a fait Desjardins d'Éden, on parlait de ça hier avec l'épineau, n'est-ce pas? Que dès que Dieu, quand il a créé le monde, il a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Il y avait une chose qui n'était pas bonne, mais c'est de l'occuper. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il s'est occupé de ça. Et donc Dieu a tout fait ce qui était bon. Et c'est quoi la chose que Satan a voulu mettre en doute? Dieu, as-tu vraiment dit ça? Autrement dit, Dieu est-tu vraiment bon? Dieu essaie de vous cacher quelque chose. Dieu n'est pas vraiment bon. S'il était bon, il ne vous empêcherait pas de faire ça. Non, Dieu était bon. Puis savez-vous quoi? On le voit parce que Dieu était tellement bon qu'il les protégeait contre eux-mêmes, contre le mal. Parce qu'avec cette tromperie, qu'est-ce qui est arrivé? Le seul bénéfice qu'on a eu dans le deal, c'est de gagner le mal. On avait déjà tout le bon dans le monde. Je veux dire, on était avec Dieu en communion. On s'est vraiment fait avoir parce que la seule chose qu'on a gagné de plus, c'est juste du mal, la mort. Dieu était bon puis il nous protégeait de tout ça. Ne laissez jamais Satan, vous-même, votre propre cœur, le monde ou quoi que ce soit, vous convaincre que la souffrance est la démonstration que Dieu n'est pas bon. Parce que c'est ce qu'on est tenté de croire quand on se pose la question, pourquoi moi? N'est-ce pas vrai? On dit, ah, Dieu, il y a quelque chose que j'ai dû faire qui déplaît à Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas, puis ça vient dans notre cœur, cette possibilité de penser que Dieu n'est pas bon. Pensez à la vie d'un homme comme Saul de Tarse. Je l'appelle Saul de Tarse parce que c'est dans le livre des Actes, au chapitre 9, avant qu'il se convertisse, puis après il a été changé le nom pour Paul. Cet homme était zélé, plein de ferveur, croyant faire le bien. Savez-vous que sa vie n'avait aucun sens? Zélé, il était donné à ce qu'il connaissait Dieu, puis c'était pas une religion païenne complètement perdue, c'était le judaïsme, c'était fondé dans la foi d'Abraham. Mais il avait perdu justement cette foi d'Abraham. Il était rendu avec un zèle religieux, sans, comme ça dit, comme Paul lui-même le dit dans Romains, un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et donc, il s'en allait dans la vie comme ça, zélé, plein de choses qu'il faisait, et c'était en vain. C'est quand que ça a changé? La même chose qu'avec Job. C'est quand il a rencontré Dieu. C'est quand Dieu s'est manifesté à lui. Puis n'est-ce pas intéressant que Dieu, bon, là on sait qu'il a arrêté sur le chemin de Damas, il avait il voyait plus, il avait des écailles sur les yeux, il s'en va dans la maison à Damas, et là, Ananias va le rencontrer pour que les yeux lui soient ouverts. Et là, c'est quoi la première affaire qui se fait dire par le Seigneur? Il dit, c'est son appel, il dit, je t'appelle pour que tu sois une lumière pour les nations, puis je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Savez-vous que Paul, avant, il était prêt à faire souffrir les autres parce qu'il y avait une cause religieuse ici-bas, mais une fois qu'il a rencontré Dieu, puis que Dieu a changé sa vie, puis qu'il a donné un sens à sa vie, là, il était prêt à souffrir, parce que lui-même le dit après, quand il donne son témoignage plus tard dans le livre des Actes, lui était prêt à souffrir. Puis même à mourir, il dit, je fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course, il y avait une mission, il y avait un sens à sa vie. Maintenant, il dit lui-même, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Je veux dire, il a trouvé le sens à sa vie lorsqu'il a trouvé Christ. C'est pour ça que Paul est le Paul qu'on connaît. Parce que la fameuse question à pourquoi moi, c'est Dieu qui y a répondu. Puis après ça, rien ne pouvait arrêter Paul. Pourquoi? Parce que sa vision de Dieu, pas parce que Paul est devenu un super-héros, parce que Dieu était le super-héros dans la vie de Paul. Regardez comment Paul y parle. Mon ami, son Jésus, là, il est grand, il est majestueux, il est tout-puissant. Je sais pas pour vous, là, mais quand je lis Paul, je me dis, waouh, lui, il comprenait c'est quoi la croix, la résurrection. Il était consumé par ça. Et ça donnait un sens à tout ce qu'il pouvait vivre. Donc, je rappelle ce matin, la souffrance, le mal est mal. On va en parler la semaine prochaine, là. La Bible dit le mal est mal. Le mal, c'est l'intrus. Le péché, c'est l'intrus dans le monde. C'était pas dans le plan original. Mais Dieu, dans sa bonté, a un rendez-vous spécial avec le mal et la souffrance. Puis j'étends encore mon appel à ceux qui peuvent encore être tout confus puis pas trouver le sens à tout ce qui arrive. Peut-être que vous n'avez pas trouvé celui qui donne le sens. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas la réponse que vous pensez, puis vous devez trouver celui qui est la réponse. Dieu permet la souffrance parce qu'il veut vous. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été racheté par le sang de Christ. Vous avez-vous déjà posé la question, récemment, pourquoi je vis? Moi, ça vous, c'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Mané, je travaillais, puis je faisais des études. Mais pourquoi tout ça? On vit-tu juste pour se remplir le ventre, aller faire dodo, aller travailler? Tu sais, y a-tu... Il n'y a pas de sens à juste une vie de même. On n'est pas fait comme... Tu sais, juste pour subsister. C'est important. Pourquoi est-ce que je vis? Puis là, je vous amène cette suite à cette pensée. Est-ce que votre réponse est assez puissante et réelle pour souffrir n'importe quoi que Dieu décide de vous amener? Parce que Paul, quand que Dieu a dit... Je vais vous montrer tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Paul, vu qu'il avait la réponse, il dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a le pouvoir, qu'il est capable de garder le dépôt. Il y avait une réponse tellement solide qu'il était capable de penser à travers tout. Et c'est ça que je veux qu'on se pose cette question ce matin. Est-ce que c'est une raison suffisante pour vivre, pour souffrir et même pour mourir? Sinon, soit qu'on va être figé dans l'apitoiement sur nous-mêmes, en disant « Oh, pauvre petit moi », parce qu'on peut donner cette réponse-là à « Pourquoi moi? Pauvre petit moi? » et ne pas aller au-delà de ce qui arrive et rencontrer celui qui envoie ces choses. Et je veux soumettre ce matin cette possibilité. Est-ce que ça se peut que le problème que nous avons en ce moment, qui était déjà là, mais comme je le dis, la crise ne fait que révéler les choses qui souvent étaient déjà là dormantes. Est-ce que ça se peut que nous n'avions pas trouvé, que je ne sais pas si on a trouvé encore, une raison de vivre qui est biblique et tellement forte, qui nous fait penser à travers n'importe quoi, puis garder les yeux sur celui qui nous envoie ces choses? Ou peut-être que notre raison, on a une raison qui est trop basse. Si on vit pour ici-bas, puis si on vit pour la prochaine paye, puis des affaires de même. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne vaut pas la peine de mourir pour ça, là. Le matérialisme et tout ça. Ça, je vous dis, là, les gens qui sont arrivés, que c'est tout ce qu'il y avait à Auschwitz, là, il n'y avait pas de raison pour vivre pour ça. Il a fallu qu'ils viennent à celui qui donne un sens à tout ça. Autrement dit, est-ce qu'on a une réponse biblique, christocentrique, qui nous donne une pleine assurance, peu importe ce que Dieu nous envoie? Est-ce qu'on a trouvé dans cette réponse notre sécurité, notre réconfort, notre refuge? Parce que la réponse, je le répète, c'est pas une réponse académique, c'est une personne. Christ est la réponse. C'est lui qui donne le sens à tout ce qu'on vit. Et on a vu la première. La semaine prochaine, on va se poser la question, OK, mais pourquoi moi? Mais il est où Dieu dans tout ça? Puis je suis capable de passer au travers. Et vous savez, la réponse est en Jésus-Christ. Et elle est révélée dans la parole. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur la parole que Dieu nous aimons? Donc voici avec quoi je termine avant qu'on amène ça devant le Seigneur dans la prière. Si vous avez été attentif à la voix du Seigneur ce matin, vous êtes un de ses enfants, et vous avez entendu la voix du Seigneur, savez-vous qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a émondé quelque chose. Il a dit ça, ça ne porte pas de fruits. C'est une pensée vaine. C'est une fausse sécurité. C'est un raisonnement humain. Dieu est monde avec sa parole. Mais il fait mieux que ça. C'est afin de porter du fruit. Dieu, dans sa bonté, nous fait passer par ce qu'on est en train de vivre depuis 9 mois, parce qu'il veut que ses enfants, que son Église dans ce monde, portent du fruit à sa gloire, afin que tous sachent qu'il est Dieu et que tous, le monde puisse savoir... qu'il y a une réponse, qu'on n'est pas juste là comme un accident dans l'univers sur une boule qui s'en va au hasard de même. Oh non, il y a un Dieu qui est au contrôle de tout ça, il y a un Dieu qui donne sens à tout ça. Et on le connaît, et mes amis, plus que jamais le monde a besoin de le connaître. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie, savez-vous, beaucoup. On n'entend pas parler, mais quelqu'un me disait, je ne sais pas d'où ce qui a pris ça, il dit à Lévis, une personne par jour s'enlève la vie. Je ne sais pas... C'est pas quelqu'un qui... C'est
10 fois plus que l'habitude.
Ouais. C'est ça.
Toi, t'es une écrite de stress psychologique.
Puis pourquoi? Parce que si t'as pas de sens, si le seul horizon que t'as, ça s'arrête à ce que tu vois, si la seule raison qu'il y a de la souffrance, c'est... Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a pas d'espérance. C'est pour ça que la Bible dit « Sans Dieu et sans espérance dans le monde. » Mes amis, qu'on remplisse notre champ de vision de celui qui est la raison, de celui qui est notre espérance. Merci Seigneur que tu nous ramènes les yeux sur Jésus-Christ ce matin. Toi, notre Père aimant, qui a envoyé ton Fils. Et merci Saint-Esprit que tu l'exaltes devant nos yeux, que tu nous applique ces choses à notre cœur ce matin. Et merci que même ce matin, tu es celui qui convainc ceux qui ne te connaissent pas. Tu les convaincs qui sont pécheurs devant toi. Que seul Christ a la justice parfaite qui se tient devant toi. Et qu'un jour, on va avoir à faire face à toi. Seigneur, je te prie que tu convainques ces gens qui ne sont pas encore sauvés. Que tu es le Dieu qui est au milieu de la souffrance, que tu sauves le malheureux dans sa misère et que tu te sers de la souffrance pour avertir. Et nous, ton peuple ici, tu ne veux pas qu'on subisse passivement les choses qu'on vit, mais tu t'attends à nous à la réponse de la foi. Tu ne t'attends pas, tu ne veux pas qu'on s'apitoie et qu'on se recroqueville sur nous-mêmes, mais qu'on lève les yeux à celui qui délivre, à celui qui est notre espérance, notre joie, notre paix, notre sanctification, notre message de réconciliation. Seigneur, puisses-tu accomplir tes desseins bienveillants au milieu de nous, dans chacune des vies ici, et que ton peuple ici rassemblé, que tu le gardes, tu le protèges, qu'on garde vraiment les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.